que chaque citoyen a des droits et devoirs. Radio Capi offre un espace pour la promotion des valeurs de la démocratie et du respect de l'autre. Élections, droits de l'homme, droits civiques et politiques, nous en parlons dans votre magazine Droits et Devoirs. Mieux connaître vos droits pour bien défendre, mieux connaître vos devoirs pour bien les accomplir. Retrouvez Jeff Ngoyi tout le mardi à partir de 6h30, 13h30 et 20h30, tous les jeudis à 9h15.
Quels sont les documents à réunir pour voyager avec ses enfants à l'étranger? Vous savez, pour aller à l'étranger avec les enfants, il faut réunir un certain nombre de documents qui vont faciliter l'octroi de visa. En dehors du passeport biométrique, certains pays exigent des documents que d'autres ambassades ne demandent pas. Donc il est du devoir des parents de bien se renseigner afin de réunir tous les documents exigés pour afin d'obtenir le visa pour les enfants. Quels sont ces documents et quelles sont les démarches à entreprendre? Bien, c'est là que nous allons parler tout à l'heure avec Monsieur Arsène Mumba, directeur général de l'agence de voyage G3 Service. Monsieur Arsène, bonjour.
Bonjour aujourd'hui.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. La première question est de savoir quels sont les documents qu'il faut réunir avant de voyager, pour voyager, obtenir le visa et voyager calmement avec les enfants.
Quels sont les documents? Je commence par dire d'abord il faudrait nécessairement avoir un passeport en cours de validité. Et au moment de constituer les dossiers des demandes...
Qui doit avoir le passeport?
Le voyageur, les requérants, c'est lui qui demande. Tout requérant, enfant, adulte, chacun a besoin de son passeport.
C'est plus comme avant, le parent, dans son passeport, on peut reprendre les noms de tous les enfants.
Non, c'est plus comme avant. Maintenant, le passeport, il est nominatif. C'est-à-dire, il appartient seulement au détenteur.
Donc chaque enfant doit avoir son passeport biométrique.
Biométrique, en cours de validité en plus.
Même un bébé, est-ce que même un bébé peut avoir un passeport?
Oui, tout à fait. Même un bébé a le droit d'avoir un passeport maintenant.
D'accord.
Et après le passeport, il faudrait maintenant constituer les dossiers. Il faudrait attester réellement que cet enfant est né à Kinshasa ou dans le Congo. Et pour ça, il y a des dossiers, des éléments comme l'acte de naissance ou l'attestation de naissance. Et à part ça, il faudrait que les parents ou le garant qui prennent en charge les voyages de cet enfant puissent présenter les garanties nécessaires que cet enfant va aller pour retourner ou soit cet enfant va aller pour étudier ou rester là-bas. C'est-à-dire c'est conditionné aussi par rapport aux subsistances, comme on l'appelle, les frais de subsistance.
Donc, il faut prouver que cet enfant...
est bel et bien le vôtre, et s'il n'est pas le vôtre...
Et quelles sont les preuves à fournir que c'est votre enfant? Parce qu'il y a aussi cette affaire des trafics d'enfants. Maintenant, les conditions ont été un tout petit peu durcies.
Oui, maintenant, pour prouver que l'enfant est le vôtre, il y a des documents que la commune établit dans les 90 jours qui suivent la naissance de l'enfant. Ces documents sont établis gratuitement, mais dépasser ces délais-là, il faudrait aller maintenant au tribunal pour obtenir un jugement supplétif à l'acte de naissance et revenir maintenant vers la commune et faire établir ces documents-là, l'acte de naissance, l'attestation de naissance et tout ça, ou la copie intégrale à l'acte de naissance. C'est ce qui prouve que cet enfant vous appartient, parce que dans ces documents-là, le nom des parents, ils sont repris. Et le jour même de la naissance de l'enfant est aussi mentionné dans ces documents.
D'accord. À part l'acte de naissance, le passeport, quel autre document?
Le passeport, comme l'enfant il est mineur, c'est-à-dire il faudrait aussi une autorisation parentale dans le dossier des demandes de visa. C'est-à-dire l'autorité parentale signe une autorisation qui légalise auprès des autorités compétentes et on indexe dans le dossier. Il faudrait que cet enfant, si cet enfant est scolarisé ici et qu'il va en congé, par exemple, à l'étranger, il faudrait prouver que cet enfant est scolarisé ici. Il faudrait prouver que cet enfant, on aille à payer les frais de scolarité ici. C'est-à-dire, il faut faire établir des documents auprès des écoles aussi. Vous allez.
Quel genre de documents? Une copie du diplôme, du bulletin ou?
L'attestation des fréquentations scolaires.
Des fréquentations scolaires.
Oui. Et puis, les preuves de paiement de Minerval, les reçus et autres, tout ça.
Quel autre document?
Il faudrait que le parent qui prend en charge les frais de voyage de cet enfant-là pour prouver qu'il est en mesure de payer son billet aller comme retour, de prendre en charge les séjours de cet enfant-là pendant qu'il sera à l'étranger. Et aussi, il faudrait essayer d'avoir l'assurance voyage, d'avoir un lieu d'hébergement de l'autre côté. S'il y a une invitation, quelqu'un vous a envoyé une invitation, vous présentez cette invitation-là et aussi les documents qui prouvent que cette personne est en mesure de vous recevoir dans sa résidence, dans les cadres adéquats qui peuvent mettre l'enfant ou le requérant, le voyageur, à l'aise pendant son séjour de l'autre côté là-bas.
Une prise en charge, comme
oui,
vous l'avez dit.
Une prise en charge, mais on ne se limite pas seulement à la prise en charge. Quand on envoie une prise en charge, il y a des documents aussi qui doivent accompagner cette prise en charge. C'est-à-dire la personne qui émet la prise en charge, qui se porte garant de vous inviter de l'autre côté. Par exemple, cette personne devrait envoyer aussi d'autres documents. Il devrait envoyer l'attestation de composition des ménages pour prouver qu'il est dans un cadre qui peut accueillir un autre visiteur. Il doit envoyer ses preuves de paiement des factures et d'électricité et d'eau, et des téléphones aussi. Et la personne doit aussi envoyer ses bulletins de paie pour prouver qu'il a de quoi vous prendre en charge pendant votre séjour là-bas. C'est-à-dire, il y a des documents qui sont réunis des parts et d'autres. Ici, les requérants doivent réunir ceux dont nous avons cité. Et de l'autre côté aussi, il y a certains documents qui doivent être réunis et envoyés. Il y a d'autres documents d'ailleurs qui doivent être envoyés ici en originaux. Par exemple, quand quelqu'un, je prends pour la France par exemple, la prise en charge, on appelle ça attestation d'accueil. Quand quelqu'un émet une attestation d'accueil de l'autre.
Il doit envoyer les originaux.
Il doit envoyer l'original de cette attestation d'accueil parce qu'il y a des timbres. Et ces timbres-là, quand vous les scannez ou vous les envoyez par photocopie, et ils ne sont pas visibles. C'est-à-dire, il faut les faire parvenir ici en originaux.
En originaux.
Voilà.
D'accord. On va accueillir des auditeurs. Esaïe Kabound de Mbujimayi, Kabundi de Mbujimayi et Madame Camilia de Kinshasa. Esaïe, bonjour.
Bonjour, monsieur, je dis bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi et bonjour aussi à l'invité.
Quelle est votre préoccupation?
Oui, moi, je voulais juste savoir, pour se déplacer avec toute la famille, c'est normal. Mais là, on doit aller se réfugier là-bas. On a déjà envisagé un endroit à aller rester avec toute la famille. Et comment on peut aller fonctionner là-bas alors qu'on n'est pas originaire de là, on peut aller se stationner avec toute la famille. C'est ça ma préoccupation sur le sujet du jour.
Bon, aujourd'hui, on ne parle pas des origines, on parle des documents qu'il faut réunir pour voyager avec les enfants. Merci. Madame Camilia, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour.
Quelle est votre préoccupation?
Bon, j'aimerais, parce que là, je vous parle par rapport à ce qui se passe dans notre quartier, là.
Oui.
Je ne vais pas raconter de chez vous. Alors, nous habitons à Rigini.
Ah, d'accord.
Nous avons à Rigini.
Madame Camilia.
Oui,
alors dans ce cas-là, si c'est pour la rubrique « Ça s'est passé près de chez vous », on va vous rappeler tout à l'heure parce qu'on est en train d'aborder un sujet sur les documents à remis pour voyager avec les enfants. Alors dans ce cas-là, on va vous rappeler juste après dans la rubrique. Merci, bonne journée, à tout à l'heure. Alors nous poursuivons avec vous, Monsieur Arsène Mumba, directeur général de l'agence de voyage G3 Service. Alors mettons-nous, prenons le cas par exemple, les parents sont en Europe et les enfants étaient restés ici et maintenant il faut... ce qu'on appelle le regroupement familial. Il faut que les enfants puissent rejoindre les parents. Dans ce cas-là, quelles sont les démarches ou les documents à réunir?
Dans ce cas-là, il y a aussi deux phases de démarches qu'il faudrait faire. La première phase, c'est-à-dire les parents de l'autre côté, à partir du pays où ils sont, ils doivent entrer en contact avec les autorités des offices des étrangers pour réunir un certain nombre de documents qui sont propres au pays dans lequel ils vivent. Et puis ici sur place, il y a aussi des documents que les enfants doivent présenter, c'est-à-dire quand le parent entre en contact avec les services compétents là-bas pour essayer de réunir la famille. Ici dans le pays, on va l'ambassade du pays concerné va appeler les enfants et on va leur demander de présenter un certain nombre de documents. Entre autres, les documents qui prouvent qu'ils sont bel et bien enfants de ces parents-là qui veulent les regrouper. Mmh. Et puis, ces parents-là doivent aussi de l'autre côté avoir réuni certaines conditions, c'est-à-dire ils ont déjà commencé à travailler, ils sont dans des conditions qui peuvent leur permettre d'élever convenablement leurs enfants. Et je voudrais soulever un point ici, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit au début de l'émission, pour éviter la traite d'hommes et les trafics illicites des enfants qu'on a eu à constater il y a 2-3 ans ici dans le passé, la Direction Générale des Migrations a instauré un système d'autorisation des sorties pour les enfants mineurs. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a un mineur, après avoir obtenu son visa au niveau de l'ambassade, avant de sortir du pays, il faudrait que les responsables, le parent, l'autorité parentale, puissent faire une demande d'autorisation des sorties adressée au directeur de la police frontalière de la DGM.
Ok.
Dès qu'il fait, cette demande, il doit annexer aussi l'acte de naissance, l'attestation de naissance de l'enfant, dans lequel il est repris le nom de parent et celui de l'enfant, et écrire cette demande à la main, signer, légaliser, il va déposer avec une copie du passeport de l'enfant et même les billets achetés avec la destination finale dans le pays duquel l'enfant doit se rendre. Mmh. Et il dépose au niveau de la Direction Générale des Migrations. Et ça prend généralement 72 heures pour qu'on vous donne une suite, on vous réponde. Et ces frais-là des démarches sont gratuites et n'impliquent aucune taxe. Mais c'est une démarche qui vient après obtention du visa.
Ok, donc l'obtention de l'autorisation des sorties n'a pas d'implication financière.
Non,
on ne paye
elle,
rien.
Elle n'a pas d'implication financière.
D'accord.
C'est juste pour éviter que qu'il y ait traite d'hommes ou qu'on puisse faire une vente illicite.
Et si l'autorisation vous est refusée?
Si l'autorisation vous est refusée, on va vous donner
le motif
pour lequel l'autorisation n'a pas été accordée et l'enfant ne pourra pas quitter les territoires congolais.
Alors que vous avez déjà acheté les billets, vous avez déjà tout acheté.
Oui, mais si l'autorité constate que cet enfant n'est pas le vôtre ou qu'il y a un dossier pas clair, il y a pas opacité, il y a opacité dans ce que vous faites, on n'accorde pas l'autorisation de sortie.
D'accord. Kwamba, Danny Kwamba est en ligne depuis Mbujimayi. Bonjour.
Bonjour Monsieur Jody et bonjour à l'invité aussi aux auditeurs de la radio Capi.
Nous parlons des documents à réunir pour voyager avec les enfants à l'étranger. Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, la décision en question est pertinente parce que ce sont les effets, parce que quand moi-même je suis victime de cette histoire, ça on veut aussi des fois aussi lancer un message aussi aux parents, parce que à chaque après la naissance, il faut toujours qu'ils puissent présenter l'enfant, qu'ils puissent enregistrer ses enfants pour lui donner l'acte de naissance. Ils sont en train de construire, par exemple, mon dossier sur place. Je me suis retrouvé que je suis victime de cette histoire. Il faut faire lancer des requêtes, avoir les avocats pour lancer les requêtes, pour avoir les documents, les jugements, et puis les jugements supplétifs.
Oui.
C'est qui coûte cher. Vous trouvez que l'urgence, vous commencez à faire trop de démarches, là, ça prend beaucoup d'argent. On se retrouve que les parents doivent aussi tenir compte des fois, parce qu'on ne sait pas, aussi des fois l'avenir, qu'on peut aller en Europe, on peut aller où. Vous vous retrouvez que dans les circuits, on commence à faire trop de démarches, on fait des requêtes pour avoir les jugements supplétifs, ce qui complique aussi des fois, parce que les jugements, ça ne va pas sortir le même jour que vous-même, vous allez l'introduire. Mmh. Alors que j'avais aussi une question à demander aussi à l'invité. Oui, par rapport aussi à ce qui se passe, par exemple, les DV loteries là. Il y a de ces familles-là qui jouent par rapport à cette histoire. Quand ils vont gagner dans cette histoire, ils sont encore obligés de laisser tous ces documents pour annexer ou bien ils vont partir directement sans problème.
D'accord. Merci, Dani. Clément Daye, vous êtes à Kananga. Bonjour.
Bonjour, Jody Daniel Nkashama. Bonjour aussi à l'invité de la Radio Capi.
On vous écoute, Clément.
Il est vrai que nous sommes nés dans des familles différentes, mais il arrive des moments qu'un enfant est recommandé précipitamment juste pour arriver, par exemple, en Belgique ou bien en États-Unis, ainsi de suite. Il arrive des fois que les enfants qui naissent normalement au village, il n'y a jamais eu, soit on vend le document, mais un parent n'a jamais pensé d'aller au centre de santé, soit, par exemple, à l'état civil pour qu'un enfant puisse vraiment se procurer un document. Mais dans ce cas, est-ce que c'est important de faire voyager un enfant sans document? Si normalement on fait voyager un enfant sans document, quels sont les inconvénients ainsi que les avantages? Et aussi la deuxième question que je voudrais juste demander à notre invité, après combien de mois ou après quel âge, à quel âge qu'on peut faire voyager un enfant? Je fais allusion aux enfants mineurs, c'est ça ce que je voudrais juste demander à l'invité. Et puis bonne journée chez vous, jeudi Daniel Nkashama.
Bien, merci Clément. Arsène Mumba, vous avez la parole.
Oui, je commence par M. Dany Kwamba Mbujimayi. Je voudrais d'abord dire ceci. Il est du devoir de chaque parent d'accomplir les actes civiques. C'est-à-dire, quand un enfant naît, il est accordé 90 jours dès la naissance de l'enfant pour aller les déclarer à l'état civil. Et dans ces délais-là, une fois respectés, les actes de naissance, les attestations de naissance ou la copie intégrale d'actes de naissance, elles sont gratuites. C'est-à-dire, une fois dépassés ces délais-là, vous ne pouvez plus les obtenir gratuitement. Il faudrait aller au tribunal.
Le délai de 3 mois.
Oui.
De 90
jours. 90 jours.
Oui.
Et une fois vous allez au tribunal, ça implique les avocats, ça implique les frais de justice, et c'est une longue démarche parce que...
Il en souffre maintenant.
Voilà.
Il se rend compte que c'est...
Parce
que... Ça lui coûte de l'argent.
Une fois le jugement supplétif à l'acte de naissance établi, il faut attendre encore 30 jours. Pour qu'on puisse établir les certificats de non-appel avant d'établir maintenant les documents de l'enfant.
Mmh.
Et ça peut vous prendre 3-4 mois comme ça. Et si les voyages étaient prévus dans 2-3 mois,
c'est fini.
C'est fini.
L'enfant
vous
ne pourra pas.
Vous l'avez raté.
Oui.
Quand il parle de DV Loterie, si une famille a gagné au DV Loterie, et s'il faut réunir tous ces documents, ben oui. C'est-à-dire, il faut toujours présenter ces documents-là à l'ambassade. Quand vous ne présentez pas, ou il y a manque d'un de ces documents dans les dossiers de demande de visa, le dossier est déclaré incomplet. Il ne sera même pas accepté à la réception de l'ambassade. On va vous les retourner. Mmh. C'est-à-dire, il faut toujours s'appliquer. Et la deuxième question, c'était...
Clément dit, est-ce qu'on peut faire voyager un enfant sans documents?
Non. Impossible.
Impossible.
Impossible, c'est pratiquement impossible. Pour qu'un enfant puisse, même pas un enfant, pour qu'un requérant puisse obtenir son visa, il doit constituer son dossier. Et son dossier doit être complet. Et s'il manque un élément ou quoi, on vous dira, non, il est incomplet. Et si le dossier a été déposé, accepté quand même à l'ambassade, avant qu'on ne puisse vous répondre, on va vous appeler pour vous dire, voilà, il y a un complément urgent de documents à apporter. Mmh. Et on vous dit les documents que vous devez apporter.
Et il dit à quel âge faire voyager un enfant, un mineur?
Un mineur, ça dépend. Si déjà un enfant qui vient de naître, les médecins peuvent l'autoriser à prendre place dans un avion. Mmh. Déjà, vous pouvez les faire voyager.
Gaston nous appelle de Kinshasa. Bonjour. Bonjour Gaston.
Oui, bonjour, merci. Oui.
Nous parlons des documents à réunir pour voyager avec les enfants à l'étranger. Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Bon, l'enfant, comme tout autre individu, doit réunir tous les documents requis pour voyager à l'étranger. Surtout le motif de son voyage. Mais si il est accompagné de ses parents, il n'y a pas de problème là. Le motif des parents, mais il arrive, les enfants qui ont fait 17 ans, 15 ans, ils doivent voyager à l'étranger. Il faut qu'il y ait un motif, parce qu'on parle des enfants adoptifs, hein. Il faut qu'il y ait un motif valable qui peut tenir debout. Mais c'est la plupart des agences ne tiennent pas compte de cela. Ils font voyager des enfants qui sont maltraités ou soit qui vont aller perturber l'ordre de l'autre côté. Mais au moins, je pense qu'il est très important de retenir que le document aussi sur le plan interne, s'il ne se tienne pas de manière convenable, hein, vous arrivez par exemple à ce qui concerne les actes de naissance que vous avez fait allusion, c'est tout un problème. Donc, il suffit d'avoir l'argent, même si la personne est là ou pas, vous aurez ces jugements-là et les actes. Mais il vous doit y avoir une enquête, hein, de savoir qui est cet enfant, s'il est congolais, il est qui. Mais il y a beaucoup de corruption, comme on dit là, des agents de l'État se contentent. Et puis cet argent-là qu'on peut rendre à travers des jugements qui ne sont même pas rendus conformément à la loi, c'est l'argent qui entre dans les poches des gens. Et puis les agences, hein, je pense qu'il faut qu'il y ait du sérieux dans ce que tout ce monde-là font pour Le document, je pense que c'est que l'État requérant demande, si vous êtes en mesure de les accomplir, de remplir, il serait dans le sens d'envoyer les gens dans le convenablement, en soit la vérité, pas seulement l'argent qui prime. Parce que ce qu'on constate dans les chefs, est-ce que vraiment ça a raison d'être de ces agences-là ou la manière dont les dossiers sont constitués en RDC? Est-ce que l'autre pays apprécie cela? Parce qu'on crie aussi que tout ce monde qui va de l'autre côté, en réalité, ce sont des gens inutiles, hein? Ce sont des gens qui... Ouais, je voulais avoir l'avis
De l'inviter à ce sujet. Merci Gaston de Kinshasa. Ntumba, vous êtes aussi à Kinshasa, bonjour. Bonjour Ntumba. Ntumba était là tout à l'heure, mais n'est plus là. Il va certainement nous rappeler. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Gaston, monsieur Arsène?
Bon, monsieur Gaston, je voudrais dire ceci. Les documents, il faut les avoir. C'est-à-dire, quand vous parlez de corruption ou autre, tout ça, ce sont des cas isolés. Mais néanmoins, nous savons qu'à Kinshasa, il y a des gens qui travaillent. Et ces gens-là, quand ils travaillent, ils font leur boulot. C'est-à-dire, il faudrait... si vous déclarez dans les délais, vous n'aurez plus à aller au tribunal pour les jugements supplétifs et autres. Et aussi, je voudrais nuancer sur quelque chose. Il l'a soulevé sur les agences de voyage. Je voudrais préciser une chose. Aucune agence de voyage n'octroie les visas. C'est-à-dire, les agences de voyage peuvent, par contre, vous accompagner dans la constitution de votre dossier de demande des visas. L'obtention des visas ou l'octroi des visas est une exclusivité aux ambassades. C'est-à-dire, aucune agence de voyage ne donne les visas. Et aucune agence.
Mais aujourd'hui, on voit par exemple avec la Dévéloterie, des cybercafés qui font la pub tous les jours, qui présentent des passeports avec visa à l'intérieur pour faire croire aux gens qu'ils vont vous aider à obtenir le visa.
Ils n'ont fait que aider ces gens à jouer au Dévéloterie. Et la décision d'obtenir les visas ne vient pas de ces cyber-là, ni de ces agences-là. C'est-à-dire, s'ils présentent des passeports nantis des visas, c'est peut-être parce que les gens qui sont passés par là ont eu à obtenir des visas. Peut-être parce que le dossier était tout simplement bien constitué. C'est-à-dire, les agences accompagnent les demandeurs de visas dans la constitution des dossiers et non n'accordent les visas. Ça, c'est une nuance à souligner.
Kani Lubango, depuis Bukavu, nous dit ceci. Je voulais me rendre à Kigali avec mes enfants et je sais qu'entre le Rwanda et la RDC, il arrive qu'on utilise les jetons pour la traversée. Avec madame et tous les actes de naissance de nos enfants, est-ce que c'est suffisant pour sortir avec les enfants, surtout qu'ils n'ont pas de passeport? Que prévoient les relations extérieures pour m'éviter des tracasseries en dehors de mon pays? Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Sur ces points, on doit tenir compte de quelque chose. Le Rwanda et nous sommes deux pays frontaliers, nous partageons la même frontière terrestre. Mmh. Et le Rwanda n'exige pas des visas aux Congolais. Mais néanmoins, il faudrait voyager avec une carte internationale, c'est-à-dire les passeports. Les passeports, c'est une carte d'identité internationale. Mmh. S'il y a les actes de naissance ou il y a la carte d'électeur, c'est-à-dire c'est juste la ville à côté où vous pouvez entrer pour 2-3 jours et ressortir avec un jeton. Mais quand il veut aller à Kigali, il doit nécessairement avoir les passeports.
Le passeport.
Et pour lui, sa femme et ses enfants, et aller à la DGM pour obtenir les autorisations des sorties, parce que ces enfants-là vont franchir la frontière. Ils vont sortir de notre pays pour aller dans un autre pays. C'est-à-dire, c'est à peu près ça.
Mais s'ils n'ont pas de passeport, il y a aussi un document qu'on appelle CPGL, qu'on donne de l'autre côté.
Qu'on donne de l'autre côté. C'est-à-dire, à part ça, mais...
À la DGM, bien sûr.
À la DGM, oui. Mmh. Mais comme il va à Kigali, et il va pour un séjour assez long, plus de 3 jours, je pense que le mieux est pour lui de chercher de passeport pour sa famille.
Bien, nous parlons aujourd'hui des documents à réunir pour voyager avec les enfants à l'étranger. Seloua nous appelle de Kalemi. Bonjour.
Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour aussi à l'invité du jour.
Quelle est votre question, Célia? Seloua.
Oui, c'est Teloua Evariste.
Teloua Evariste, ok.
Oui. La question est la suivante. Lorsque moi j'aimerais voyager avec toute ma famille qui est composée de 8 membres par exemple, et que dans ces 8 membres-là, il n'y a que 4 qui ont déjà atteint l'âge qui est reconnu par l'État, c'est-à-dire au minimum 18 ans. Alors, là, je passais au bureau là où il s'est exigé le passeport. On me donnera, par exemple, le passeport de 4 personnes et le reste, je serai obligé de payer les billets pour les autres membres de la famille avec lesquels je dois voyager avec.
Ouais, vous parlez des passeports, vous parlez des billets. Au fait, vous, qu'est-ce que vous voulez dire exactement?
Bon, c'est juste ce qui concerne le voyage à l'étranger parce que nous devons voyager à bord. Donc, moi, il a un passeport à l'étranger.
D'accord. Alors, il a une famille de 8 personnes. Donc, chaque membre de la famille doit avoir son passeport.
Son passeport, exactement. Ça, c'est simple, clair. C'est-à-dire, chaque membre de la famille doit avoir le passeport. Et les mineurs et les non-mineurs. C'est-à-dire, ceux qui sont au-delà de 18 ans doivent avoir leur passeport. Et ceux qui ont moins de 18 ans, et même ceux qui ont un ou deux mois, doivent avoir
même
aussi...
Même les bébés doivent avoir aussi leur passeport. Ntumba nous appelle de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, Radio Kapi.
On vous écoute, Ntumba.
Ma question est la suivante, Radio Kapi.
Oui.
Je voudrais juste me focaliser sur ce point d'aujourd'hui, vraiment. On a dit qu'une personne, avant de voyager, il faut payer quoi? Les passeports. Après les passeports, il n'y a pas d'autres documents qu'on peut aussi vous obliger aussi de payer pour voyager. Et à part ça, d'autres questions que je voulais un peu vous poser. Et les passeports là, coûtent combien? Parce qu'il y a deux sortes de passeports. Il y a les passeports que une personne peut aussi acheter pour aller définitivement dans ces pays-là. Il y a aussi des passeports que les gens peuvent aussi acheter pour aller faire quelque chose pour ou les business et de retourner dans son propre pays. Et quel est ce point-là que je peux me focaliser?
D'accord, merci.
Quelles sortes de passeports?
Monsieur Arsène.
Oui, monsieur Ntumba.
Oui.
Je voudrais...
Quel est le prix des passeports-là? Parce qu'il y a les passeports d'aller définitivement, il y a les passeports d'aller faire les business et de retourner dans son propre pays. Vous pouvez m'aider,
voilà, je pense que vous faites allusion, vous pouvez parler de visa, monsieur Arsène.
Oui, monsieur Ntumba, je voudrais vous dire ceci. Il n'y a pas deux sortes de passeports, dont l'un qu'il faut utiliser pour aller rester dans les pays où on voudrait se rendre.
Et un autre pour le business.
Et un autre pour le business. Non, il n'y a qu'un seul passeport, c'est le passeport congolais qui est maintenant biométrique. Et dans ces passeports, par contre, on peut mettre l'occupation ou le travail que fait la personne. Si la personne est commerçant, on doit mentionner commerçant. Si la personne est employée, on mentionne employé. Mais il n'y a pas deux sortes de passeports, monsieur Ntumba. Et quant à ce que vous avez voulu savoir, après les passeports, quel autre document vous devez acheter? Non, on n'achète pas des documents, mais on les obtient, moyennant des taxes et autres, tout ça. Après les passeports, vous êtes obligé de constituer votre dossier de demande de visa. Et chaque ambassade exige une somme pour les visas. Et cette somme-là est non remboursable. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres documents ou qu'il y ait deux passeports comme vous voudriez avoir l'éclaircissement.
Pour le traitement des dossiers des enfants, il y a des frais aussi à payer à l'ambassade?
Il y a certaines ambassades. Par exemple, à la maison Schengen, des 0 à 6 ans ne payent pas. Les enfants ne payent pas. Au-delà, les enfants doivent payer. C'est-à-dire, il y a toujours un coût pour les visas et ces coûts-là, ils sont non remboursables.
D'accord. Donc, de 0 à 6 ans, les enfants ne payent pas.
Oui.
Alors, mais s'il faut peut-être faire voyager un enfant d'urgence, il y a un cas de maladie, un cas où l'enfant doit être directement évacué pour suivre les soins, à ce moment-là, un cas d'urgence.
Oui.
Comment ça se passe?
Oui, les cas d'urgence sont rapidement traités par rapport aux autres cas. C'est-à-dire, quand il y a un enfant qui est malade et qui doit être évacué, il y a une réquisition du médecin qui atteste que les cas de la maladie de cet enfant ne peut pas être pris en charge ici, sur place. Mais il y a tel hôpital dans tel pays qui peut prendre ce cas en charge. En ce moment-là, les parents, ce qu'ils doivent faire, c'est entrer en contact. Parce que le médecin peut faciliter les contacts avec l'hôpital de l'autre côté qui peut le prendre en charge. Mmh. Payer les frais d'hospitalisation déjà de cet enfant-là. C'est-à-dire quand vous payez les frais d'hospitalisation et que vous constituez votre dossier, quand vous le présentez et que de l'autre côté, l'hôpital qui doit accueillir l'enfant a déjà établi un rendez-vous fixe, en ces moments-là, je pense qu'il y a toujours une expéditivité dans les traitements de ces cas.
Là, on n'aura pas besoin d'autres documents, attestations
si,
et,
si,
et
si,
tout
si,
cela.
Si. Il faudrait, quand on constitue ces dossiers-là, tous ces éléments-là doivent faire partie de ces dossiers-là. C'est-à-dire, vous faites votre dossier normalement, mais vous ajoutez les dossiers médicaux, la réquisition ici sur place, mm-hmm. la réquisition de l'autre côté, et les rendez-vous, les frais payés de cette hospitalisation. Et vous réunissez tous les documents, vous faites une demande, et là, on va les traiter en urgence par rapport à la maladie.
Et si les parents n'ont pas eu le temps d'aller chercher, par exemple, une attestation à la commune, mais l'enfant est malade et qu'il y a urgence, il doit partir.
Mais qu'est-ce qui prouve que cet enfant est à eux? Vous voyez, c'est-à-dire, c'est pourquoi les parents doivent toujours aller à la commune. Je pense qu'aujourd'hui, vous verrez même dans certaines communes, on est en train de construire des bureaux des quartiers. C'est pour rapprocher l'administration communale aux habitants. C'est-à-dire, c'est maintenant ça. Il faudrait que ces parents-là prennent conscience que si aujourd'hui je néglige ça, demain, cela risquerait de me rattraper. C'est vraiment important.
C'est vraiment important d'obtenir l'acte de naissance de l'enfant.
De l'enfant, oui.
Et surtout enregistrer les enfants directement.
Les enregistrer à l'état civil.
À l'état civil.
Et aujourd'hui, comme je l'insiste encore, il y a des communes telles que Matete où on a construit des bureaux de quartier pour rapprocher seulement les administrés à l'office de l'état civil. C'est-à-dire aller dans ces bureaux de quartier, poser des questions par rapport aux différents documents, on va vous expliquer et vous serez à l'abri.
Parce que si vous négligez ça aujourd'hui...
Aujourd'hui, ça vous rattrape demain.
Demain, et c'est compliqué.
C'est compliqué. Il y a un cas d'urgence comme ça. Vous n'avez pas d'attestation de naissance, d'acte de naissance de l'enfant. Rien ne prouve que cet enfant, il est le vôtre. Il faudrait aller au tribunal. Il faudrait attendre le jugement de non-appel. Et tout ce temps-là, c'est du temps vraiment perdu.
Voilà. Est-ce qu'au niveau de l'agence, vous avez déjà connu des cas pareils?
Oui, on a connu des cas pareils. Il y a des gens qui... Mais heureusement pour eux, ils avaient déjà tous les documents en ordre. C'est-à-dire, ils avaient des attestations, ils avaient tout. Tout ce qu'on demande là, ils les avaient déjà. Et quand on leur a demandé, il suffisait que les parents aillent fouiller quelque part dans la maison. Et le lendemain, ils nous apportaient ces documents. On les aidait à constituer leur dossier de demande de visa.
Voilà, nous allons lire d'autres réactions des auditeurs. Il y a, c'est Jean Badi qui nous dit, il y a d'autres pays qui ne demandent pas le passeport comme les pays de l'Europe australe et d'autres qui demandent la carte d'identité, le visa, et qui ne demandent pas de passeport. Qu'est-ce que vous lui dites à ce sujet?
Non, à ma connaissance, je ne sais pas, mais je voudrais lui dire ceci. On demande la carte d'identité, d'accord, mais ici, pour sortir du pays. On ne sort pas du pays pour aller dans ces secteurs-là dont il fait mention avec la carte d'identité. Parce que pour aller en Europe australe, là-bas, il devrait prendre un avion. Et pour prendre l'avion ici, il doit présenter son passeport. Mmh. C'est dans le passeport qu'on met les cachets de sortie. C'est pas sur la carte d'identité. Mmh. Et pour ça, il doit essayer un peu de s'informer ou nous appeler après l'émission pour qu'on puisse l'éclairer un peu plus.
Jean-Cy Kombay nous dit depuis Kananga, il arrive des fois qu'une catégorie de personnes remplissent toutes les formalités mais ne parviennent pas à voyager avec leur famille pour des raisons selon lesquelles leur nom se trouve dans la liste noire. Ce genre de cas, comment peut-on les traiter? Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter des cas pareils?
La liste noire, je ne sais pas de quelle liste dont il fait mention, mais au moins quand je sais que quand une famille veut se déplacer, le plus grand problème qui coince toujours, c'est être en mesure de prendre en charge tous les membres de sa famille. Vous voulez voyager avec 8 personnes, vous avez 8, dans votre famille vous avez 8 personnes, mais il faudrait, et vous, le garant, c'est-à-dire les papas, présenter à l'ambassade que vous avez de moyens conséquents pour prendre en charge tous les membres de votre famille. Sur la liste noire, je ne sais pas de quelle liste.
Peut-être ça, c'est pour des raisons politiques.
Si c'est pour des raisons politiques, bon.
Là, ça, c'est un autre cas.
C'est un autre
dossier.
C'est un autre dossier vraiment à part.
Voilà. Donc, par exemple, pour ceux qui jouent à la dévéloterie, hein, donc, ils doivent, c'est maintenant qu'il faut déjà réunir tous ces documents-là.
C'est maintenant, là, qu'ils doivent déjà réunir, voir s'ils n'ont pas ils ont des enfants qui manquent d'attestation et d'actes de naissance ou de copie intégrale, tout ça. C'est maintenant de voir ça. C'est maintenant d'entrer en contact avec la commune où vous résidez pour essayer de voir comment régler ça.
Parce de réunir calmement chaque document, le dossier de chaque enfant.
On a eu à voir des gens comme ça. Il a gagné à la dévéloterie, mais parce qu'il a manqué des documents et les délais dans lesquels il devait entrer aux États-Unis étaient dépassés. Voilà. Et il est
c'est
là.
Fini,
c'est fini.
Vous perdez.
Vous perdez.
Georges nous appelle de Manono. Bonjour, Georges.
Oui, bonjour, monsieur Jody. Bonjour aussi à notre invité. Alors, la première question, j'aimerais demander à notre invité quels sont peut-être les inconvénients. Une personne s'expose en se déplaçant en dehors de son pays sans passeport. Eh bien, monsieur Jody, j'aimerais demander si pour se déplacer et quitter la RDC, par exemple, je suis à Manono, est-ce que je dois nécessairement avoir tous les visas ou les passeports ou bien peut-être des petites différences entre ces deux mots. Et voilà tout, monsieur Jody.
Ok, monsieur Georges, je voudrais vous dire ceci. Le passeport, vous devez nécessairement l'avoir pour quitter.
On ne peut pas quitter le pays sans passeport.
Sans passeport. Quand vous quittez le pays sans passeport, vous êtes un clandestin. Alors, il y a une nuance entre passeport et visa. Le passeport, c'est votre carte d'identité nationale et internationale. C'est-à-dire, avec le passeport, vous pouvez vous présenter dans le pays, marcher. Par exemple, certaines banques, pour faire des transactions, exigent des documents, entre autres, les passeports. Et avec ces passeports, quand vous avez votre visa, le visa, c'est le document qui vous donne accès, d'entrer dans un territoire d'un autre pays X. Vous voulez vous rendre dans un pays X, vous allez à l'ambassade ou à la représentation de ces pays dans notre pays, vous faites la demande des visas. Une fois qu'on vous accorde les visas vous donnent accès d'entrer dans le territoire en question. Et maintenant, avec votre passeport, vous pouvez aussi vous promener. Si votre passeport a un visa en cours de validité dans ces pays-là, vous pouvez vous présenter avec votre passeport comme étant une carte d'identité.
D'accord. Et un auditeur nous pose, un internaute nous a écrit, John Ruben Kanyinda, il dit pour quitter Mbujimayi et aller à Paris, qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être qu'avec les enfants, il doit d'abord venir à Kinshasa.
Il doit d'abord avoir son passeport, parce qu'à partir de Mbujimayi, il peut obtenir son passeport.
Et les passeports des enfants aussi.
Les passeports des enfants aussi. Et maintenant, pour aller dans ces pays dont il fait mention, il doit aller soit à Lubumbashi, soit à Kinshasa. Pour faire sa demande à la maison Schengen. C'est-à-dire, il peut déjà en ligne faire sa demande de visa, il remplit les formulaires et il fait les déplacements soit de Mbujimayi à Lubumbashi ou de Mbujimayi à Kinshasa pour venir déposer sa demande de visa.
Mais le plus grand problème, c'est que les gens se prennent toujours trop tard avec toutes ces démarches et puis c'est le stress et parfois ça ne marche pas.
Non, le plus grand problème plutôt aujourd'hui, je pense que c'est l'ignorance.
C'est l'ignorance.
Oui, les gens ne savent pas ce qu'il faut. Les gens ne savent pas quoi faire. Les gens ne savent pas comment faire. C'est pourquoi nous sommes là pour les accompagner. Vous ne savez pas, vous ne connaissez pas par où commencer, quel quoi réunir, comment faire. Venez vers nous, nous allons vous conseiller, nous allons vous orienter. Nous ne vous donnons pas les visas, mais nous vous aidons à constituer votre dossier des demandes de visa. Ça, je dois insister sur ça.
D'accord. Merci Arsène Mumba. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'agence de voyage G3 Services. Merci et à la prochaine.
À la prochaine, Jordi.